Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est d'écraser, d'humilier, d'humaniser. 200 livres la télé.
Un matin.
Dans les cours de promenade.
Un matin.
Des miradors.
Un matin.
Des psychologues.
Salut.
Et salut. Bonsoir.
Eh bien, nous sommes le jeudi 18 juin, il est 20h et vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Duo 89.5 FM. Donc émission Papillon, émission contre toutes les prisons. Pour nous écrire, émission Papillon chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du plus loin Mont, M-O-N-T, 42100 Saint-Étienne, CEDEX. Une adresse mail, émission Papillon tout attaché, @riseup.net, riseup.net, on ne cessera de le répéter. Et ben cette émission est aussi diffusée en direct sur Radio Canu 102.2 à Lyon grâce à la petite cuillère, autre émission anticarcérale et qu'on salue fortement, voilà, et chaleureusement. Salut. Évidemment. Donc ce soir, bah, le programme, c'est des nouvelles de l'intérieur par la lecture de différents courriers. On donnera des nouvelles de Philippe Lalouel en fin d'émission, dont on a régulièrement parlé à cette antenne. Et on aura Pierrot en ligne qui présentera le projet. Un projet de film qui est consacré à l'expérience de Philippe. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça rigole.
Non, c'est le sample, je m'y attendais pas.
Et on aura d'autres nouvelles d'ailleurs de Rachid qui est au CNE de Réo, des nanas de la maison d'arrêt de femmes de Poitiers-Vivonne. Et voilà. Et puis surtout, on va commencer par une petite.
Des nouvelles locales.
Ouais.
Parce qu'on avait déjà parlé plusieurs fois de. Il y a quelques semaines, entre autres, on avait eu Yann au téléphone qui nous parlait de petits problèmes qu'il avait eu avec la police l'année dernière, il y a un an, et qui s'était pris une balle de lanceur de balles de défense dans le visage. Du coup, c'était l'occasion aussi avec d'autres fois avant de parler des violences policières et des armes de la police. Et donc là, à Saint-Étienne, on est un peu concerné parce qu'ici, on a quoi ? On a Vernet-Caron, du coup, Vernet-Caron.
On a un gros tissu industriel, il faut le dire.
Vernet-Caron, c'est la PME locale qui fabrique, entre autres, le flashball. Du coup, le flashball qui représente 40% de son chiffre d'affaires. Enfin, moi, je ne vais pas m'amuser à faire la pub de Vernet-Caron, surtout que là, ces derniers temps, ils sont. Enfin, le directeur s'est retrouvé à plusieurs reprises ces dernières semaines dans la presse locale. Et pour nous faire part de son petit désarroi face à la réputation du flashball qu'on prend un coup. Et parce que ces derniers temps, il y a pas mal de victimes de mutilés qui sont fait connaître ou qui ont réussi à faire connaître leurs histoires, en fait, de problèmes qu'ils ont eu face à la police qui utilisait du coup cette arme-là, le flashball. Et aussi, entre autres, un rapport qui est arrivé à la fin du mois de mai de l'inspection générale de la police nationale, du coup l'IGPN, qui fait un état du coup pas super glorieux du flashball et qui pense peut-être à sortir le flashball à demander aux flics de plus utiliser le flashball. Du coup, on sait pas trop si c'est une bonne nouvelle ou pas, parce que bon, dans tous les cas, même s'il n'y a plus le flashball, il y a quand même tout plein d'autres armes, et puis on va pas s'amuser à lancer une rumeur, on sait pas trop si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, ce qui se passe dans, du coup, il y a deux articles qui sont sortis dans la presse locale et à la télé, et un des deux articles dans lequel Vernet Caron, du coup, il s'estime attaqué de tous les côtés parce que il y a de la mauvaise pub pour son arme favorite qui lui rapporte plein de sous. Et du coup, il en profite aussi pour faire de la pub pour une nouvelle version de ce flashball-là qui va sortir spécialement pour des plus petites unités. Et du coup, par exemple, pour la police municipale, c'est clairement ce qu'il dit, que genre, c'est une version réduite du flashball. C'est un peu la version de poche, un peu pour les enfants, pour les moins méchants que la police nationale ou les moins méchants que la BAC. Mais ça reste quand même une arme qui lance des balles et qui peut crever des yeux, voire même tuer. Et voilà, et du coup, où est-ce que j'en suis ? Je me perds.
En fait, il fait surtout du lobbying auprès de la municipalité de Gaël Perdriau.
Oui, c'est un peu ça, c'est un peu...
Perdre de part de marché, enfin, pour pas perdre de marché public, là, il est ancré à Saint-Étienne, et du coup, armer la police municipale de Saint-Étienne, c'est plus facile, vu qu'il est là, et vu que les accointances sont...
Ouais, il y a des accointances. Après, c'est pas clairement dit dans l'article, mais c'est ce qui est dit, c'est que la municipalité de Saint-Étienne, en tout cas, étudie la possibilité d'acquérir des flashballs pour armer la police municipale. Et on sait déjà que la police municipale est armée de taser, du coup le pistolet à impulsion électrique, qui aussi, juste soit dit en passant, du coup, on dit que c'est une arme non létale, mais c'est une arme qui tue. Du coup, ça c'est sûr, c'est prouvé, il y a plein de cas. Et quoi d'autre ? Et oui, et du coup, il revient sur toutes ces attaques aussi qu'on a reprochées au flashball et sur lesquelles en fait il se défend en disant c'est pas de ma faute. Souvent, s'il y a des problèmes avec les flashballs, c'est que genre la police s'en sert mal et que la police n'entraîne pas assez ses policiers et ses effectifs pour utiliser bien comme il faut les flashballs.
Ce qui est complètement cynique parce qu'il connaît très bien...
Il se dédouane complètement de ce qu'il fait, quoi. C'est un peu genre... À la base, c'est lui qui fout... qui c'est qui fout les flammes entre les mains des flics et qui c'est qui les fabrique, quoi.
En gros, si Vernet Caron n'était pas à Saint-Étienne, peut-être que la police municipale ne serait pas armée prochainement des armes Vernet Caron, en fait. On peut l'imaginer comme ça.
Avoir, sachant qu'il y a déjà des contrats a priori dans d'autres villes.
Les commerciaux sont à l'œuvre.
Dans d'autres villes pour filer des flashballs aux polices municipales, et du coup entre autres Lyon et Marseille. Voilà.
Et ben voilà les
pour
petites nouvelles.
Les nouvelles locales bien sympathiques.
Nous voilà bien lotis. Ouais. Du coup voilà, on va continuer avec la lecture du blog du Tolar Inconnu, en fait. Donc ça nous est arrivé assez régulièrement de lire ses écrits. Alors en fait, c'est un ancien détenu. Enfin maintenant, c'est un ancien détenu puisqu'il a été libéré il n'y a pas très longtemps. Et pendant toute sa détention, il a réussi à faire sortir des courriers et à avoir accès à un média internet, en l'occurrence rue 89 Lyon. Et voilà, donc pour témoigner du quotidien de la prison, quoi. Du coup, là, il a été libéré. Mais il a décidé de continuer du coup à publier ses chroniques, et on va vous lire du coup sa 41e lettre où il vient juste de sortir. Donc voilà, il dit: enfin libre, mais mon combat contre les prisons continue. Me voilà donc dehors, enfin libre, mais mon combat contre les prisons continue. Si je reste anonyme, c'est juste une question de sécurité, car lorsqu'on a un casier, on est directement désigné pour qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête, surtout après avoir fait sortir des textes malgré leur surveillance. Il me faut donc attendre la prescription. Car ces gens-là n'ont qu'un principe, ne plus jamais lâcher les tolards. Stigmatisé à vie, la marque au fer rouge existe plus que jamais sur l'épaule d'un ancien prisonnier. Je continue donc mes chroniques, puisque rue 89 Lyon m'en laisse la possibilité. Contrairement à ce que beaucoup croient, la prison n'est pas une solution. On nous la présente ainsi pour la justifier, mais en vérité, elle est un problème et un symptôme. En effet, aucune des missions qu'on lui attribue n'est remplie. Elle ne protège pas la société, bien au contraire, et n'amende en rien les individus incriminés. La récidive en est la démonstration absolue. L'accroissement faramineux des gens sous écrou, alors que les crimes, voire les délits, diminuent régulièrement, confirme l'arbitraire flagrant des polices et des tribunaux. Non seulement la logique punitive a éliminé les actions de prévention, mais la répression grandit en dépit de son efficacité, de son inefficacité. Cette logique punitive n'est plus reliée à la réalité sociale et dévoile son caractère purement idéologique. Quelle rigolade, si je peux dire, surtout lorsqu'on nous évoque conjointement l'ordre public qui va avec. Ceux qui crient au loup ne le font que pour défendre leurs propres privilèges ou annonnent les mots, entre parenthèses, mots M-A-U-X, enfin il y a les deux mots en fait, hein, de leur maître. La société n'est pas mise en danger par un braqueur de banque. Elle ne l'est pas par le trafic de stupéfiants et les quelques meurtriers le sont pour des raisons qui n'appelleront pas la récidive. Il n'y a donc pas de danger réel et récurrent, quoi qu'en disent les politiques et leurs chiens de garde que sont les médias en évoquant le ras-le-bol de l'opinion publique. Il faut que tu le saches, lecteur, l'opinion publique n'existe pas, comme le disait Pierre Bourdieu, mais elle est fabriquée principalement par les médias avec le choix qu'ils font de leurs spécialistes, de leurs interviews ciblées et de leurs sondages aux questions orientées. Il suffit de regarder l'actuelle manipulation pour nommer le PDG de la télé publique, en l'occurrence une PDGère avec un CSA, prétendument indépendant pour en être convaincu. Quand un Éric Ciotti affirme que délinquance et misère n'ont rien à voir, les études prouvent le contraire. Depuis 2002, il y a une progression de 52% de la population carcérale, de 48 000 à 74 000, bracelets électroniques et semi-liberté compris. Le sociologue Didier Fassin décode, à ouvrir les guillemets, « Alors que la situation sociale se dégrade et que les inégalités sociales augmentent, on observe simultanément une stagnation des prestations sociales dans les revenus, ce qui revient à un recul relatif compte tenu de l'aggravation du chômage et à une inflation du nombre des prisonniers, que n'explique pas une hausse des crimes et des délits graves. » C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Fermez les guillemets. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc on voit bien que d'une part... que le pouvoir crée les conditions de la délinquance et que d'autre part, la punit quand elle se fait jour. Les responsables politiques sanctionnent ceux qu'ils mettent à la marge et protègent ceux qui sont au centre, dont ils font partie. Il suffit de regarder objectivement les faits pour constater que l'exemple même de la délinquance s'incarne dans ces dirigeants qui détournent à qui mieux ton argent et le nôtre, lecteur, dans les banquiers qui se servent du pognon de leurs clients pour des opérations sulfureuses et leur font payer les déboires de ces malversations tout en s'enrichissant encore plus en temps de crise, dans tous ceux qui se font payer de manière exorbitante des services qui ne les valent pas, à savoir les intermédiaires en tout genre, dans les dirigeants de certains pays qui alimentent le trafic de drogue et qu'on reçoit avec tapis rouges et cocktails, dans la finance où les riches perçoivent des dividendes honteux et les patrons des salaires indécents. Nietzsche avait raison, le droit procède de la force des puissants et les vrais bandits sont en costume. Allons dans les détails et prenons à nouveau un exemple. La lutte contre le trafic de stupéfiants vise officiellement à démanteler les réseaux et surtout réduire leurs chefs à néant pour éradiquer la circulation de produits illicites. Or que constate-t-on ? Que ce sont les peines de prison contre les consommateurs qui ont augmenté de 74% et pas un grand chef d'arrêté. La cocaïne et l'héroïne, drogue dure, bien plus dure que le shit, sont largement minoritaires dans les coups de filet douaniers ou de la BAC et donc dans les tribunaux. On comprend mieux lorsque l'on sait que le shit est le produit qui se vend et se fume dans les cités et zones défavorisées, où comme par hasard se retrouve la population marginalisée et étiquetée immigrée, donc contrôlée plus que de raison par les représentants de l'ordre étatique, alors que les autres drogues se consomment dans les quartiers chics et chez les riches, où les descentes de police sont rarissimes et appartiennent davantage au scénario cinématographique qu'au quotidien des lieux de vie huppés. La prison, censée défendre nos libertés, est une vaste carabistouille. On t'enfume, lecteur, on te ment et on te manipule. La tôle sert à dissimuler la vision du monde des gens de pouvoir qui font les lois et à éviter que chacun en constate l'échec flagrant de ce même pouvoir du point de vue humain et collectif. Il ne faut pas rêver, la liberté ne nous est jamais donnée par les tenants du pouvoir et par les possédants, ils nous octroient qu'une ridicule liberté conditionnelle. C'est en cela que la prison est à la fois un symptôme et un problème, mais jamais une solution. Voilà.
Et ben, enfin non, mais surtout, là il est sorti, mais en fait c'est écrit, on ne peut toujours pas savoir qui c'est.
Non, bah non, c'est ce qu'il dit au début.
Ouais, justement. Parce que justement, les écrits des prisonniers sont contrôlés, censurés, etc. Et que surtout, ça donne lieu à des représailles de la part de l'administration pénitentiaire, quand les prisonniers et les prisonnières parlent trop selon eux. Et du coup, c'est toujours important que cette parole circule. Et puis bah, ça va nous permettre de faire la transition avec les lettres reçues de Poitiers-Vivonne, de la maison d'arrêt des femmes.
Du coup, c'est deux lettres plus précisément. Pour remettre un peu dans le contexte, c'est des lettres. Il y en a une qui est un peu plus récente que l'autre. Il y en a une première qui date de mars, l'autre qui date d'il y a deux semaines, en fait, de début juin. Et pour remettre un peu dans le contexte, c'est des lettres qui suivent. Des échanges avec le journal L'Envolée, en fait, suite à un appel à faire une plateforme de revendication, à demander aux prisonniers, prisonnières, qui de leur donner la possibilité de donner des revendications si ils ou elles en ont,
et les partager
au-delà des murs et entre les différents établissements.
En fait, l'idée, c'était surtout qu'on constate que depuis, dans les différents mouvements collectifs et individuels qu'il y a eu ces dernières années en prison, et en fait, les revendications sont toutes les mêmes, c'est-à-dire le manque de rapprochement familial, la longueur des peines, les peines prononcées dans les tribunaux, etc. Et le manque de perspective de sortie aussi, la répression des matons, etc. Et en fait, ces revendications-là, on en a parlé à la dernière émission avec le livre de Q, elles n'ont pas changé depuis les années 80, c'est toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, pour soutenir ces revendications, essayer de leur donner de l'écho. Et du coup, le journal L'Envolée a essayé justement de lancer cet appel à plateforme. Et du coup,
c'est donner de l'écho et essayer de relier les prisonniers, prisonnières entre eux aussi, et de leur donner quelque chose en commun plutôt que d'avoir chacun, chacune sa lutte dans son coin.
Et du coup, les nanas de MAF de Poitiers-Vivonne, elles y avaient
participé. Et donc là, c'est une lettre du 18 mars de l'une d'entre elles. Alors, le 18 mars, quand nous avons dit « les prisonnières sont adaptées », il faut expliquer aussi le pourquoi de cette situation. La plupart des femmes que nous retrouvons ici, ce sont des femmes qui ont une vie vraiment dure. Beaucoup qui ont des enfants dans des situations difficiles, beaucoup d'entre elles sont seules, etc. Mais ce sont des femmes, pas toutes mais pas mal quand même, qui sont habituées à être humiliées. Ça m'est arrivé d'être 4-5 filles en promenade et d'être la seule à ne jamais avoir été battue par son mari ou autre. Des femmes avec un grand manque d'estime de soi. Presque toutes les filles pensent qu'elles méritent la prison, la punition, car elles ont fait des bêtises. Il y en a qui reviennent tout le temps en prison car dehors c'est trop dur, ou celles qui sont accros à la drogue et leur seul but c'est d'avoir sa dose de la journée, ce que les dealers habillés en blouse blanche leur donnent. Et au milieu de tout ça, quand quelqu'un fait preuve de dignité, parce que ça arrive et ça arrivera bien sûr, le monstre de l'administration pénitentiaire sort toute sa rage, sa violence, son sadisme et essaye de l'écraser sans laisser de traces. Peut-être la personne digne et rebelle ne changera pas son attitude, mais ça va être une bonne leçon pour les autres. Comme l'Inquisition qui brûlait les femmes qui osaient être libres devant tout le monde pour que le peuple ait peur. Enfin, je t'apprends rien de nouveau, mais nous ne pouvons pas prétendre faire la révolution sans bien connaître le peuple, le terrain et le pourquoi de la situation. La réalité est vraiment noire et le système capitaliste a besoin de ce système pénitentiaire. Donc les choses ne changeront pas sans changement intégral de la société. Ah, oui, et vous êtes trois Pékins, mais nous savons que 3 plus 3 plus, etc., ça donne, comme dirait Kenny Arcana, on est des millions. C'est pour ça que nous insistons sur l'union aussi à l'extérieur, c'est ça notre force. Peut-être nous ne serons pas d'accord en tout avec l'OIP, par exemple, mais allons trouver ce qui nous unit, et comme ça, avec tout le monde. Je sais que peut-être je donne l'impression d'être défaitiste, ce n'est pas le cas, mais je pense également qu'une révolution en ce moment, à l'intérieur de la prison, est très 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 improbable. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir les stratégies, l'ennemi est très fort, et pas agir à l'aveuglette. Je pense qu'un mouvement organisé et ample à l'extérieur, mais en union avec l'intérieur, les prisonnières et les prisonniers, peut faire un gros travail de dénonciation, mais pas que ça. Il faut discréditer, affaiblir et créer des failles au système carcéral. D'un autre côté, si avec l'aide de l'extérieur, les prisonniers et prisonnières combattantes qui sont éparpillés aux quatre coins des prisons françaises peuvent s'organiser, être en contact et même doucement commencer à faire peut-être des actions ensemble, ça peut être mettre une affiche comme faire un blocage, ça va dépendre de la force et des besoins de chaque moment. Des actions qui auront un écho à l'extérieur, je sais pas, peut-être que je vais trop loin. Je sais que les choses sont pas simples, mais pourquoi pas. En tout cas, je vois pas d'autre façon pour vraiment bien combattre ce système meurtrier.
Le 5 juin, je pense que dire qu'en prison, un homme normalement aura plus de chances de recevoir des visites de sa compagne ou sa mère, contrairement à une femme, ce n'est ni simpliste ni caricaturé. En même temps, c'est tout à fait logique tout ça. Si la prison est le reflet de la société, que peut-on espérer d'une société machiste comme cela ? En plus, le plus douloureux est que nous, les femmes, nous avons intériorisé notre devoir d'être au service de notre homme, si profondément que ça fait peur. Quand Strauss-Kahn avait violé la femme de ménage ici en promenade, les filles ne doutaient pas que la femme noire avait menti pour obtenir de l'argent. Une jeune fille noire se plaignait qu'à cause de cette femme de ménage, ouvrez les guillemets, on va penser que toutes les femmes noires nous sommes des menteuses. Ou sinon l'autre commentaire était « Le pauvre Strauss-Kahn aime trop les femmes ». Parce que tu sais que les hommes ont des besoins, pulsions sexuelles que nous les femmes n'avons pas, non ? Je t'envoie le tract qu'on va vous lire après, que demain nos familles vont répartir à Vivonne et alentour. En fait, depuis un mois apparemment, à cause du manque de personnel, ils ont changé la façon de faire les rondes de nuit. C'est-à-dire, avant les surveillantes restaient à la MAF, et donc elles laissaient les portes du couloir ouvertes, et normalement elles faisaient à peu près attention avec l'œilleton. Ça nous est arrivé d'être obligés de râler parce que la surveillante de la veille avait fait sa connasse, mais c'était assez. Mais c'était assez pour dominer la situation. Maintenant, les surveillantes du quartier homme et du quartier femme font toute la prison, donc comme le règlement oblige, ils ferment et ouvrent les portes à chaque fois. Évidemment, on peut le faire en faisant doucement ou pas. Les surveillantes ne sont pas contentes avec le changement et donc leur stratégie est de nous faire chier à nous pour que nous pétions les plombs. Ça nous est arrivé aux Basques de finir au mitard à cause des rondes de nuit. Et comme ça oblige la direction de changer d'avis. Tu vois à quel point c'est une grosse merde ces bleus. Il faut être lâche et misérable. Nous avons décidé de ne pas rentrer dans leur jeu, de ne pas leur donner le plaisir de voir leur stratégie fonctionner. En même temps, nous pensons qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps dans cette prison. Et en plus, nous pensons aussi que pour changer leur système de ronde de nuit, il va falloir se battre dur. Donc, on a décidé de faire avec pour les 2 ou 3 mois qui nous restent à faire ici. Mais en même temps, nous voulons faire un peu de mal à la prison. En tout cas, un peu plus que de nous foutre au quartier disciplinaire, nous deux ou à 5 avec les camarades hommes, et que personne ne soit au courant. En même temps, nous avons déjà eu d'autres revendications et nous avons réussi, sans arriver au quartier disciplinaire. On va lire le tract dont elle parle et qui a été distribué par les familles basques aux abords de la prison. Donc l'administration pénitentiaire de Poitiers-Vivonne empêche le sommeil des détenus. À cause des rondes de nuit, nous n'arrivons pas à dormir dans des bonnes conditions. Les agents pénitentiaires effectuent les rondes de nuit toutes les 3 heures. Dans la plupart des cas, dans chaque ronde, les surveillants n'ont aucune considération vers les détenus et ils font beaucoup de bruit, soit avec les portes, soit avec l'œilleton, soit avec leurs clés, soit parce qu'ils parlent. Au quartier femmes, c'est particulièrement cruel, car en étant très petit, les bruits résonnent beaucoup. De plus, il y a un enfant et une femme enceinte. Cette pratique tortionnaire nuit énormément à notre santé physique et mentale et à notre équilibre psychologique. Nous demandons à la direction de cette prison de faire cesser les rondes de nuit, ou du moins de faire le nécessaire pour qu'elles se déroulent en silence, pour le droit à un sommeil digne, collectif des prisonniers prisonnières politiques basques de Poitiers-Vivonne. Donc voilà, une revendication par exemple qui a été appuyée à l'extérieur par... Enfin voilà, qui trouve un écho à l'extérieur. Parce que voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les Basques, ils ont quand même une organisation aussi qui les... Enfin des familles, des relais à l'extérieur qui les soutiennent et qu'ils agissent collectivement. Voilà, ils sont pas isolés. Après, elle évoque toujours aussi le... Enfin, et ce qui est une réalité, il sait hyper bien son texte, le fait d'être une femme incarcérée et du coup, l'isolement qui est... Enfin, l'isolement de fait, parce que t'es une femme, t'es pas soutenue de la même manière que quand t'es un homme, et ce texte, il est très bien aussi pour ça, quoi. En tout cas, voilà, là, c'est un texte de lutte collective. Et du coup, il nous reste à parler de Rachid aussi, qui est dans des luttes.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Non.
Pardon, je t'ai coupé.
J'avais même pas commencé, du coup, t'as pas coupé.
Ok, donc on va donner des nouvelles de Rachid Boubala, dont on a souvent parlé aussi à cette émission. Pour rappeler brièvement, c'est quelqu'un.
Oui, dans les luttes individuelles, pour le coup. Voilà.
Oui, bon, du coup, voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a été. On a parlé de lui il y a peut-être un an et demi de ça, peut-être même un peu plus. Il avait pris en otage un surveillant de Condé-sur-Sarthe. Et il avait pris 8 ans d'enfermement en plus. Alors le cas particulier de Rachid, c'est qu'il est rentré en 97 pour 3 ans de prison pour un vol avec violence. Là, il est toujours derrière les barreaux. Il n'est pas libérable avant 2038, quelque chose comme ça. Juste pour avoir résisté à sa manière en détention et pour le fait qu'il ne supporte pas la détention. Et notamment... voilà. Donc les dernières nouvelles qu'on a de lui, c'est qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas. Il était à Saint-Maur en quartier disciplinaire. Là, à Saint-Maur, c'était l'année dernière, il y a une mutinerie qui a éclaté. Et les surveillants ont dit qu'il était le meneur de la mutinerie. C'était paru dans la presse. Lui, il était à ce moment-là en quartier
disciplinaire. Syndicat de surveillants.
Les syndicats de surveillants, oui. Donc on a eu accès à un article du. Enfin, en tout cas, il y a un article dans le Figaro qui est sorti. Là-dessus, lui, il était en quartier disciplinaire, donc il était même pas au courant qu'il y avait eu une mutinerie à Saint-Maur à ce moment-là. Il a été transféré et donc au passage, il a décidé de porter plainte pour diffamation contre ce syndicat de surveillants de la centrale de Saint-Maur. Et depuis, il a fait plusieurs établissements, dont Châteauroux. Il est passé à Fleury. Il a dû faire 5 ou 6 établissements cette dernière année-là. Et du coup voilà. Donc en fait, il s'est passé un truc à Ensisheim. Donc il était là-bas au mois d'avril. Et voilà, là où je voulais en venir, bon, il y a le téléphone qui a sonné, ça m'a un peu déconcentré, va-t-on dire. L'une de ses armes, justement, je disais qu'il supportait pas, que c'était quelqu'un qui résistait à l'intérieur et qui ramassait pour ça. L'une de ses armes qu'il a trouvée, notamment au fond de son quartier d'isolement, c'est d'asperger d'excréments, de ses excréments, les surveillants pénitentiaires. Et il a fait ça notamment à Ensisheim. Et en l'occurrence, les syndicats de surveillants ont eu accès à la presse locale et notamment à France 3 Régions pour publier un article dans lequel ils se permettent de dire beaucoup de choses négatives sur Rachid. Et justement, l'article, on va en lire un peu. Donc ils disent: le détenu ingérable, lanceur d'excréments, transféré à Mulhouse. Il y a quelques jours, des surveillants de la prison d'Ensisheim dénonçaient la présence d'un détenu ingérable, entre guillemets, auteur d'insultes quotidiennes et de jets d'excréments visant le personnel. Les syndicats annoncent son transfert vers la maison d'arrêt de Mulhouse ce jeudi 16 avril. Selon le syndicat UFAP-UNSA majoritaire, les surveillants d'Ensisheim étaient contraints, à la demande de la direction, de répandre de la litière pour chat dans la cellule de ce détenu et de porter des masques et des surchaussures. Âgé d'une quarantaine d'années et atteint de troubles psychiatriques, le détenu concerné purge actuellement une longue peine dans le quartier d'isolement de la prison alsacienne, a précisé Laurent, secrétaire général adjoint de l'UFAP-UNSA. Le syndicat a affirmé avoir écrit à la ministre de la Justice Christiane Taubira pour réclamer le placement de ce prisonnier dans un établissement spécialisé. Donc ouvrez les guillemets. À un moment donné, il y a des établissements pour ça, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire dans notre structure. Non seulement on a la garde, mais aussi les soins et l'entretien, a expliqué le syndicaliste. L'UFAP-UNSA reproche notamment à la direction interrégionale des services pénitentiaires de n'apporter aucune solution à ce dossier. Sollicité par l'AFP, cette dernière n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Selon le syndicaliste, le détenu aurait séjourné dans 87 prisons depuis 1997, transféré à chaque fois au bout de quelques mois vers une autre prison pour les mêmes motifs. Entre guillemets, on ne peut plus gérer ça. La dernière idée de l'administration a été d'acheter de la litière pour chat et de demander au gardien de la répandre dans sa cellule et dans le couloir. Où va-t-on ? On ne garde pas des animaux, s'est interrogé monsieur blablabla. Malgré ce transfert à Mulhouse, l'UFAP UNSA Justice continue de demander son placement dans une institution spécialisée. Donc c'est lui qui nous a fait, qui nous a prévenu qu'il y avait eu cet article qui est sorti. Ce qui est quand même, assez dingue, c'est qu'une fois de plus, ça montre le poids des syndicats de surveillants dans la gestion des détentions. Et là, ils se permettent même de dire ouvertement et d'avoir accès aux médias pour ça, pour dire tel détenu doit être transféré dans telle structure, etc.
Voilà, la facilité à laquelle ils peuvent avoir accès aux médias pour leur parole, elle n'est jamais remise en question. Mais
exactement.
Toute façon, quoi.
Surtout que voilà, de troubles psychiatriques.
C'est un peu les cartes hyper faciles, genre les troubles psychiatriques et puis sortir du spectaculaire tout de suite, ça marche.
Et
très
mais
bien,
ils peuvent pas comprendre qu'en fait c'est juste quelqu'un qui est en bagarre tout simplement, et ça je pense que ça leur échappe un peu quoi. En tout cas voilà. En tout cas maintenant Rachid il est au CNE de Réau pour enfin pouvoir bénéficier de son transfert à Clairvaux. Donc le CNE,
c'est pas encore assuré.
C'est un lieu où on est observé pendant 6 semaines avec des travailleurs sociaux, des psychologues, des surveillants qui participent à l'observation, etc. Et pour après être affecté dans tel ou tel établissement.
Et surtout, enfin juste pour conclure sur Rachid, en fait, c'est que ces luttes-là, c'est ce qui le fait tenir. Et lui-même, c'est ce qu'il dit, en fait.
Il est toujours à l'isolement, ça c'est à préciser, que ça fait des années qu'il passe de QI en QI dans les différentes prisons. Quoi.
Et ses moyens de révolte, c'est vraiment la seule chose qui l'a fait tenir durant ces années-là, au risque de devenir... Enfin voilà, pour pas devenir fou.
Une petite pause musicale.
Ouais.
De retour,
sur Radio Dio 89.5 FM Papillon. Voilà. Et
Radio Canus 102.2.
Hein ?
Et Radio Canus 102.2.
Et Radio Canus 102.2, évidemment. Et ben, on va continuer avec la lecture d'une lettre de Philippe Lalouel. Lannemezan, fin avril 2015. Bonjour à tous. Eh bien, me voilà arrivé à Lannemezan, après un long combat semé d'embûches. J'ai serré les dents pour y arriver. Revoir les barreaux de cette centrale n'est pas une grande joie, car ma liberté est prise depuis 29 ans, le 23 avril, par les bourreaux et les jurés moutons de cette société. Et puis les victimes. Elles se font braquer puis très bien payer, car toutes ces victimes ont pris un fric fou en quelques minutes. Ma rage, je la garde au plus profond de moi. Je serre les dents, même mon but atteint. Je vois ma compagne chaque semaine et ça, c'est le top. Je tiens à dire que ma compagne est une battante. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, elle ne rate jamais un parloir. Et je la respecte plus que tout. Heureusement qu'elle est là. Cela me retient de certaines choses. L'avenir dira ce qui viendra pour moi et ma compagne. À l'intérieur de moi, je suis une bombe atomique, malgré le bonheur de voir ma compagne chaque semaine. Car la tôle plein les couilles. Ça veut plus rien dire, cette peine de condamné à mort qu'ils m'ont foutu. Je l'ai en travers de la gorge. La population a bien changé et je ne me sens pas dans mon monde à moi. Il n'y a pas de taf et ils parlent de réinsertion. Ha ha ha. Comment les mecs pourraient se réinsérer s'il n'y a pas de boulot et quand il y en a, c'est payer une misère. Ça dégoûte et décourage tout le monde. J'entends que de la rage entre ces murs, c'est normal. J'ai fait un stage en janvier. Comme paye, j'ai eu 15,82 €. En février, 31,64 €. En 2 mois, ça fait 47,46 €, la honte. Ils ramènent tout à la crise. Bien sûr, hein, bref. Ma santé se maintient. Je tape mon sport, voilà, sinon il n'y a rien à faire entre ces murs. C'est l'abandon du détenu dans la centrale. Je m'emmerde, c'est triste, ça ne vit plus dans les centrales. Je comprends, c'est normal que ce soit ainsi car il n'y a rien de rien. Le temps passe, les années passent, tu rentres en tôle sans rien et tu restes avec rien. Que des histoires sans parole. Des promesses bidons, des excuses, c'est toujours pareil et à force tu te fous de tout. Ça n'énerve même plus leurs conneries tellement ça devient banal. Bref, à part ça, je passe le bonjour à tous les frères à Moulins. Avez-vous reçu ma dernière lettre car j'ai plus de vos nouvelles. À Poissy, Ralette, j'ai bien eu ton bonjour, je te le repasse et j'espère que ça avance pour toi. Toi le jeune, t'es toujours au QI de Seyss. J'espère que tu vas en sortir vite. Christophe Kider, garde la pêche, poteau, je te passe bien le bonjour. Et Karim Tahir, j'espère que tu vas mieux, je te passe bien le salam, frère. Je passe le bonjour à l'envolée, aux gueules noires à Saint-Étienne. Vous savez, j'écris avec retenue, car voilà. Je vais finir là cette petite lettre, car quoi dire sur courrier ? Un jour vaut mieux une année, la rengaine, quoi. Un de ces jours, à un de ces jours, les amis. Philippe. Et il y a un PS. Je reviens un peu. J'écris quand j'ai besoin de me libérer un peu, la bombe endormie que j'ai au fond de moi. Eh bien aujourd'hui, jour de paix, alors là encore moins que le mois dernier. J'ai eu 31,42 € pour mars. Vu que j'ai reçu un mandat, ça dépasse les 200 €. Alors il reste 22,72 € sur la paye. Ha ha ha. Parce qu'en fait, il y a un prélèvement voilà, pour rembourser le fonds d'aide aux victimes au-delà de 200 € par mois de comptine. T'es obligé de rire. Quelle honte. Enfin, faut que je serre les dents pour ma compagne, pour moi aussi, rien de neuf, la routine. Je passe le 29 en commission pour ma levée du statut de DPS. Mais bon, hein. Pour dire les trucs que j'ai à dire, je suis obligée de faire du léger car les cadeaux, à nous, on n'en fait pas. Bref, je finis sur ces lignes. Bon courage aux déterminés, femmes et hommes, dans ces tombeaux secrets de merde. A plus les amis. Et voilà, et pour info, Philippe a gardé son statut de DPS. Et ben du coup voilà les dernières nouvelles de Philippe et puis bah ben, on a à l'antenne Pierrot.
Salut.
Salut Pierrot.
Bonsoir.
Ça va ?
Oui, ça va bien, ouais. Ouais.
Alors attends, un instant, je remonte. Parce que je t'entendais pas bien. Tu m'entends ?
Ouais, parfait.
Ok, bah ben, je t'entends bien, parfaitement. Ouais. Et ben du coup, bah ben, merci à toi de bien vouloir parler à cette antenne. Et puis bah ben, surtout parce que t'es ami avec Philippe. Et du coup, bah, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur sa situation aujourd'hui et comment il vit bah, aussi ce transfert à Lannemezan et voilà. Parce que je sais pas, je pense que
j'ai déjà beaucoup raconté, beaucoup parlé de Philippe dans les derniers temps, mais pour rappeler, juste pour info, il était passé en procès en appel à Montauban il y a un an, il y a un an et demi maintenant, un an et six mois. Et puis à ce moment-là, il avait pris 20 ans en première instance, puis 17 ans à l'appel.
Pour
des vols dans des banques postales qu'il avait fait en 2009. Quand il était sorti en conditionnel, en fait, au bout de 5 mois de conditionnel. En bout de 22 ans de prison, puis 5 mois de conditionnel, où il s'était retrouvé le bec dans l'eau dehors, et au bout de 5 mois, il était allé faire des braquages, des petits braquages ratés, ratés dans le sens où il n'avait pas pris grand-chose, mais pas ratés dans le sens où il n'avait pas fait mal à une mouche, quoi. Mais pour ça, il s'était fait attraper deux mois après, et puis il avait été jugé 4 ans plus tard. Ça fait beaucoup de chiffres, hein. Ouais. Comme ça, hein. La prison, c'est que des chiffres tout le temps. Des années, des comptes qui veulent plus rien dire au bout d'un moment, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Et bref, donc il était reparti pour... ça avait fait tomber sa conditionnelle, c'est-à-dire qu'il avait 10 ans de conditionnelle sur la tête, ça veut dire que là, d'un seul coup, bah, il fallait qu'il fasse ses 10 ans, plus la peine qu'il s'est pris pour cette histoire de braquage. Donc c'était 10 ans dont il avait fait 4 ans au moment du procès, donc il restait 6 ans à faire encore de conditionnel. Et c'est les peines de conditionnel, une fois qu'elles sont tombées, elles peuvent pas être réduites. Donc c'est vraiment 6 ans plein qui lui restait encore à faire au moment du procès. Et puis plus les 17 ans donc qu'il a pris en appel, quoi. Donc c'était, on va dire, si c'est 7, voilà, c'est 23 ans à faire encore, quoi, après en avoir fait 26 déjà, quoi. Donc ça faisait une peine, évidemment, une peine délirante, comme c'est le cas pour 1000 à 2000 personnes en France, partout. Et là-dessus, son procès avait été l'occasion, vous en aviez parlé évidemment à cette antenne, d'une mobilisation autour de son histoire, et puis plus largement, puisque lui-même n'arrêtait pas d'essayer de vouloir parler au nom, enfin pas au nom d'eux, pas à la place d'eux, mais parler en tant que longue peine et parler de ce sort fou fait à des gens qui se retrouvent à purger des peines infinies et qu'on condamne à mourir en prison, mais proprement et poliment, quoi, dans les tribunaux des assises, quoi. Donc bon, tout ça c'était ça. Donc après cette peine, après cette bagarre, on va dire, au moment du procès, qui avait remué beaucoup de gens et qui avait ramené pas mal de monde, donc déjà il s'était senti beaucoup moins écrasé et seul qu'au premier procès. Et donc après ça, il y a eu une bagarre, en fait, pendant quelques mois pour être qu'il soit rapproché de sa compagne, en fait, à Lannemezan, pour au moins faire sa peine, cette peine délirante, pour qu'il la fasse près d'elle, quoi. Donc ce qu'il a obtenu après être repassé au CNE, donc le Centre National d'Évaluation à Réau, où il a passé 5 mois à attendre qu'on évalue, à passer devant des experts tous plus experts les uns que les autres, c'est-à-dire à peu près aussi inutiles les uns que les autres, pour dire des choses absolument inutiles sur soi. Et tout ça pour dire que oui, finalement, le mieux pour lui, c'était bien et bien de se rapprocher de sa compagne, quoi, sans blague. Donc c'est ce qu'ils ont fini par faire, en comprenant que, de fait, c'était aussi une histoire de gestion et de la détention, quoi. C'est-à-dire que savoir Philippe près de sa compagne, enfin, en fait, tout le temps où il le faisait attendre, c'est du temps où, du coup, il était tenté de se tenir tranquille, de pas trop rouspéter, parce qu'il y avait cette attente. Et puis une fois que t'es là-bas, bah, tu te retrouves aussi bloqué, puisque c'est ce qu'il dit un peu sous-entendu dans sa lettre, quoi. Tu te retrouves là, en fait, ça y est, t'as plus rien à attendre, parce que t'as obtenu ce que tu demandais, et maintenant il te reste à regarder ta peine droit dans les yeux, quoi. Et regarder les années à faire droit dans les yeux, quoi. Et ça, c'est le...
Il y a un vide astronomique.
Voilà, c'est là le gros vide qui se prend dans la gueule en ce moment. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui se ressent vraiment dans cette lettre. Cette lettre, elle a un mois et demi, en fait. Et bah, il est toujours dans cet état-là, quoi. C'est-à-dire que passé les deux premiers mois où t'arrives, t'es ravi de... Pour la première fois, il peut voir effectivement Monique qui vient le voir toutes les semaines, comme c'est le cas pour des tas de gens, hein, quand ils se retrouvent éloignés. Pendant là, ça faisait 4 ans qu'elle pouvait venir le voir tous les 3 ou 4 mois, qu'elle devait traverser la France, comme c'est le cas de milliers de gens dans ce pays, qui sont éloignés de leur famille, quoi, et qui se bagarrent pour être rapprochés. Bon, bah, il a fini par obtenir ce rapprochement. C'était pas simple. Donc c'est à la fois une victoire et puis à la fois une drôle de victoire, puisque tu te retrouves effectivement à te voir après toutes les semaines, et ça change considérablement la vie. Mais en même temps, tu te retrouves à être dans la situation la mieux que tu peux avoir pour finir ta peine. C'est ça qui est très paradoxal, quoi. Et il le dit lui-même, il dit là maintenant, qu'est-ce que je peux attendre de mieux? En vrai, ça peut pas être mieux pour moi. Je peux pas être dans une centrale qui est plus proche de là où elle habite. Elle peut pas venir plus. Enfin, tu vois, il y a pas une autre situation où elle peut venir aussi souvent. Ça lui coûte pas trop de fric parce que c'est pas très très loin. Enfin, c'est 50 balles par semaine, mais c'est beaucoup moins que c'était avant. Donc, en vrai, c'est jouable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Et là, maintenant, il reste 17 ans, 18 ans.
Excuse-moi, je te coupe parce qu'en fait, c'est exactement le même cas. On vient de parler de Rachid, là, qui lui demande depuis super longtemps son transfert à Clairvaux.
Ouais.
Et la dernière fois que je l'ai eu, il disait, en fait, je sais très bien qu'une fois que je vais demander ce transfert à Clairvaux pour être justement rapproché aussi de ses proches, je sais très bien que ça va être hyper compliqué. Parce que déjà, ils m'attendent au tournant là-bas. Je sais que, tu vois, son arme qu'il a pour pas se laisser faire, c'est les excréments et tout. On vient d'en parler juste avant. Ouais. Il sait que là, bah, tu vois, c'est le truc qu'il a pour résister. Il pourra plus l'utiliser parce qu'il aura ce truc-là. Et il est assez lucide par rapport à ça. Et c'est exactement le même cas, en fait. Quoi.
Mmh. Voilà, ouais, bah, je crois que c'est très, très partagé. Quoi. C'est le vide. Et puis, c'est ce truc auquel sont confrontés, qui fait que se multiplier aujourd'hui. Quoi, parce que c'est pareil. Enfin, voilà, Rachid, il a une peine... dans le genre peine infinie aussi à faire, avec des cumuls de peines pris à l'intérieur, c'est ça, c'est infini. Il n'y a plus de, il y a pas d'autres perspectives, quoi. C'est un drôle de truc. Puis comme tu dis, quand tu te retrouves à discuter, enfin moi quand je me retrouve à Paris à discuter avec Philippe, c'est un truc qui est très compliqué, quoi, parce que là il me regarde droit dans les yeux et il dit bon ben voilà, il n'y a pas d'autres attentes, tu peux plus attendre, alors que au placard tu passes ton temps à attendre. Là, en plus, il y a une période judiciaire, quoi. Donc, tu as les procès, tu attends un rendez-vous avec l'avocat, ou tu attends un coup de téléphone, ou tu attends qu'il y ait un truc qui soit mis à ton dossier, ou tu attends ceci, ceci, cela. Et puis après, tu as la fin de peine où tu te mets à attendre la sortie, avec aussi la folie que ça peut représenter et les impasses dans lesquelles ça peut mettre des prisonniers. Mais tu as des échéances, tu attends ta remise de peine, tu attends ceci, tu attends cela, et tu commences à compter. C'est ce drôle de truc de la fin. Là, c'est bien avant, quoi. C'est un moment où... Tu peux pas t'imaginer, tu peux pas commencer à compter, parce que si tu commences à compter, comme tu dis, c'est vertigineux, c'est vide sidéral, quoi. C'est trop. Tu peux pas commencer à compter, et en même temps, t'es plus à attendre des trucs intermédiaires. C'est une espèce de no man's land de temps, enfin, je sais pas comment on dit. Qui s'ouvre, quoi. Et ça, pour moi, c'est une vision de la prison qui est primordiale, quoi. C'est très dur de le faire comprendre, je pense, mais tu la vois dans toute sa cruauté et toute sa
crudité. Et sa nudité, du coup.
Sa nudité, quoi. Il n'y a rien d'autre. C'est juste le temps, comme il dit, là. Le temps, comme il dit, un jour vaut une année, quoi. À partir de maintenant, il n'y a plus rien qui. Il n'y a plus rien de mesurable, quoi, en fait. Voilà. Tu perds aussi la mesure, quoi.
Et du coup, de cette expérience singulière, en fait, qui est partagée par plein d'autres détenus. Toi, en fait, de l'expérience de Philippe en prison et de longues peines et de longues peines vécues et de longues peines à vivre encore pour des années, tu décides de mettre cette histoire en film, en fait, de fabriquer un film.
On a décidé ça avant le deuxième procès, en fait, avant l'appel. On l'a décidé avec Philippe et puis avec Monique, dont il parle dans la lettre, là, la battante là, qui neige, qui pleuve, qui vente, là. Qui lâche pas l'affaire et qui va le voir tout le temps. Et comme on est potes un petit peu, évidemment, on en discutait de tout ça. Et on essayait aussi de trouver, nous, une manière de se donner une temporalité qui soit pas celle de la justice, qui soit pas celle justement de l'administration pénitentiaire et de ce vide infini des années. Et de se dire, on sait très bien qu'après le procès, ça va être. On se bagarre pour essayer de faire chuter la peine, pour relever la tête et faire en sorte que. Les 20 ans, ils chutent. Bon, on a gagné 3 ans, c'est vraiment pas une grosse victoire, hein, on va dire, mais au moins un peu de dignité au passage, surtout. Mais on se bagarre pour ça, mais on sait qu'après, ça va retomber. Et qu'après, il y aura bel et bien ces années, ce vide qui va tomber. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour se projeter et pour se anticiper et se donner une. Tu vois, à ce moment-là, c'était important aussi dans nos têtes de se donner une autre échéance de bagarre, quoi. Pour se dire, on continuera à se bagarrer après ce truc-là. On continuera à faire connaître ce sort et cette folie. On continuera à essayer de partager cette expérience et à ce qu'elle agite un peu, à faire de l'agitation autour de ça, quoi. Et que des gens réalisent ce que c'est, partager ça le plus possible, quoi. Du coup, on s'est dit qu'un film, c'était quand même le plus simple au-delà de ce qu'on écrit, au-delà des journaux et tout ça. C'est vrai que très souvent, on se retrouve à faire des soirées, des présentations, des trucs comme ça, et c'est très bien d'avoir un film, parce que ça permet d'enclencher des discussions et de donner un peu un petit commun aux gens qui sont dans la salle. Et donc ça a ces deux avantages-là, quoi. Voilà. Donc là, on en est à essayer de trouver un peu de rond pour finir cette histoire le plus vite possible, parce qu'on aimerait bien sortir ce film pour fêter, hein, je mets ça entre guillemets, mais on va dire pour les deux ans après sa dernière condamnation, quoi. C'est un peu symbolique comme date, mais c'est en janvier, fin janvier prochain, 2016, on aimerait bien sortir le film et puis se promener avec, quoi, aller se promener, quoi. Donc là, on fait un, il y a beaucoup de choses qui ont été tournées au fur et à mesure des allers-retours au parloir avec Monique, avec moi. On a lu, il y a énormément de lettres de Philippe qui sont lues, en fait. C'est un film qui va tourner autour de ça. Et en partant de son histoire, il s'agit non pas de son histoire et pas du tout en la prenant comme une histoire exceptionnelle, comme tu disais. Hein, c'est-à-dire une histoire, c'est pas du tout, c'est ni spectaculaire ni c'est vraiment la banalité de l'arithmétique judiciaire et de l'écrasement de la prison des longues peines, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est ça que ce film aimerait raconter. Et pour réussir à le raconter, ben, on passe à travers l'histoire de Philippe, à travers ses lettres, à travers le rapport qu'on a entre nous, intérieur-extérieur. Et ben, on essaye de rendre ça un peu audible, peut-être à d'autres gens, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Que ce soit aux jurés qui l'ont condamné, ou que ce soit aux victimes de demain, qui n'arrête pas de, qui adore les évader et qui adore les prisonniers quand ils les voient dans des séries à la télé, mais qui, quand ils se retrouvent dans une cour d'assises, leur colle des 30 ans, donc ça leur pose trop de problèmes et que ça les empêche de dormir, quoi. Mmh. Donc,
Et du coup, ce film, donc, t'as lancé un appel à souscription sur...
sur Internet.
Sur Internet, ouais. Yeah. et du coup, comment on fait ? Enfin, pourquoi, comment on fait ?
Bah, quoi faire, voilà. C'est comme exactement comme avant, on faisait des souscriptions, c'est-à-dire on demandait aux gens de vider leur poche avant que les choses soient terminées. Mais là, c'est pareil, mais on fait ça par Internet. Parce que comme ça, l'idée est de toucher le plus de gens possible, déjà, pour avoir une petite chance d'avoir la somme. Et puis c'est aussi l'occasion, par les réseaux sociaux et par Internet, et nous, on a pris ce parti d'assumer ce truc-là, de donner encore d'autres occasions de faire tourner des lettres, de faire tourner des textes, de faire connaître cette histoire de longue peine et de peine infinie, quoi, et de condamnation à mort camouflée pour des vols, quoi. Parce que voilà, des gens volent des choses et du coup on les tue à petit feu au fin fond de ses tombeaux secrets, comme il dit lui-même, quoi. Et du coup, c'est l'occasion de faire un peu moins de secrets aussi. Donc c'est pendant 2 mois et demi, on lance une campagne sur Internet, ce qu'on appelle un crowdfunding. C'est un financement participatif, quoi, pendant lequel il y a 2 mois on met une somme, c'est-à-dire là on demande 4500 boules et donc les gens vont sur un site, après je vais donner toutes les coordonnées, tout le bordel, mais et sur ce site, tac tac, ils disent ok, je soutiens ce film, après ils disent combien ils veulent mettre, et puis en échange ils reçoivent des cadeaux, parce que c'est ça la grosse différence avec avant. Quand on est sur Internet, on donne des trucs aux gens,
il faut appâter le chaleur.
C'est bon. Alors nous, dans les trucs qu'on file, on en profite pour que ce soit en fait des affiches du film, des DVD en fait, ou un petit livret qui avait été fait au moment, avec les écrits de Philippe, qui avait été fait au moment de son procès, qu'on avait distribué aux jurés. Donc c'est aussi l'occasion, enfin tu vois, on se sert de ce truc là aussi pour faire circuler des petits bouts d'objets autour de ça, quoi.
Après, et le cadeau, ça peut être aussi de dire vous pouvez maintenant vous lancer dans une correspondance avec Philippe pour plusieurs années.
Et ça, c'est un gros gros cadeau, avec lui ou avec des tas de gens surtout. Enfin, c'est aussi, j'espère que le film ou cette histoire-là, c'est aussi un moyen de dire à des gens que, sans forcément se lancer dans des correspondances pour des années, qu'écrire ça reste quelque chose de très 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 important aujourd'hui, et c'est vital, quoi. Et que, enfin, d'écrire à des gens à l'intérieur, quoi, enfin correspondre, quoi, vraiment ce truc là malgré 2.0, malgré Internet, malgré les clés 3G, malgré les téléphones portables, etc. Ça reste encore important, et moi je pense que c'est une vraie manière pour des gens qui sont pas confrontés au placard ou qui n'ont jamais vécu directement ou par des proches. C'est aussi une manière de comprendre les choses un peu différemment, quoi. C'est pas de manière théorique, quoi. C'est parce que t'es confronté à la réalité du truc, savoir que ce que t'écris c'est lu, ça change beaucoup, ça te fait réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est, ce rapport-là, quoi. Bah, bref, bon. Mais du coup, pub.
Eh ben pub, oui, vas-y, parce que là, en fait, il nous voilà. reste 5
le
minutes.
Le film, j'ai pas dit le nom du film. Alors, le film, ça s'appelle Faites sortir l'accusé. C'est une super blague, vous avez vu.
Elle est très bien.
Voilà.
Elle est très juste.
Faites sortir l'accusé par rapport à cette émission qui est une émission de parti pris qui s'appelle Faites entrer l'accusé depuis des années que tout le monde connaît et qui est une émission qui est toujours du côté de la justice, toujours du côté des flics, toujours du côté des experts, malgré le cuir noir de son présentateur. Et ben là c'est un ben là l'idée c'est on fait une blague là-dessus et on dit que oui on peut rigoler un peu avec ça aussi et il faut le faire, c'est un rire un peu noir et un peu jaune, et que là on est clairement de l'autre côté quoi. Voilà, c'est vraiment faire sortir l'accusé. Donc il suffit d'aller sur internet, sur n'importe quel moteur de recherche, taper Faites sortir l'accusé le film, et là-dessus vous aurez plusieurs entrées, soit le Facebook. Pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, il y aura moyen de liker, comme on dit, de faire suivre la page, de faire connaître, etc. Et sur cette page, il y a des petites vidéos, des bouts de texte qu'on va mettre aussi pendant 2 mois, les lettres de Philippe, etc. Donc c'est l'occasion de les faire tourner, n'hésitez pas. Et puis sinon, si vous avez un peu de rond, et là j'insiste sur le fait que c'est pas des grosses sommes qui sont nécessaires, et mieux vaut des tas de gens qui font connaître le film et qui mettent 5 balles, que attendre le gros lot, quoi. Et c'est ça qui compte. L'idée, c'est quand même de profiter de tout ça pour que ça circule, et aussi pour montrer que s'il y a plein de gens qui donnent des ronds, c'est qu'il y a plein de gens que ça intéresse, cette histoire, et que... Voilà. Et donc là-dessus, c'est un site qui s'appelle TousCoProd, en attaché, donc TousCoProd, et sur TousCoProd, vous mettez que vous cherchez le film Faites sortir l'accusé, et là-dessus, vous arrivez, vous aurez une vidéo de présentation du film. C'est peut-être ça que vous voulez faire écouter à la fin, là.
Et je pense qu'on n'aura pas trop le temps.
Ouais, ben voilà,
mais du coup, on la mettra en lien sur voilà. Le numéro 0.
C'est ça. Ben, du coup, il y a une petite vidéo, un espèce de teaser bande-annonce qui présente le film et puis qui raconte un peu comment ça va être. Et puis à côté, il y a un petit onglet avec marqué produire le film, parce que c'est tous coprod, c'est un peu comme si on était tous des coproducteurs, gentiment main dans la main du film. Et donc là, on produit le film, on appuie dessus, puis après, voilà, on est face à ces trucs-là, et puis on met la somme qu'on veut mettre, et puis après, on est surtout, j'espère qu'on reste dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que, surtout après, on se dit, on suit le déroulé de cette campagne, et puis ensuite, on reçoit le DVD, on le fait tourner, on essaye de faire des projections avec ça, et puis on essaye de faire un peu bouger les choses et de faire de l'agitation avec ça, quoi. C'est ça le but, hein, quand même. Voilà.
Eh ben Pierrot, merci en tout
merci
cas
à toi
et
merci à vous de m'avoir fait jacter.
Hein. Et attends, et déjà tu salues bien fort Philippe et Monique.
Ouais.
N'oublie pas. L'autre truc, c'est que nous, du coup, on va faire tourner l'info pour ce film. Voilà. Et peut-être que la prochaine fois, on passera le teaser, on verra.
Ouais.
Et l'autre truc, c'est qu'on on se bougera aussi pour une fois qu'il sera sorti, et le faire tourner. Et voilà, dans le coin, et voilà, on s'organisera tout ça.
Carrément, on
voilà.
Viendra avec Monique.
Ça a été enregistré, donc on est obligé de le faire.
Ouais,
ouais
c'est
mort.
Foutu.
Okay. Grosse bise à vous, et puis, FCD, quoi, hein. Continue, quoi. Hein.
Oui, pareil, et à très vite. Ciao. Et merci Pierrot de nous avoir appelés, et puis une force, courage et détermination à Philippe, Monique et puis Rachid et toutes les personnes.
Et tous les prisonniers.
Voilà. Et juste rapidement.
Les petites annonces.
Ouais, alors.
Alors on va commencer par rappeler le procès de Christine pour ceux qui peuvent. En tout cas, elle passe en procès le 29 janvier au tribunal d'Evry. À 13h30, si je me trompe pas, on en a déjà beaucoup parlé. C'est pour notamment des refus de fouilles.
Je crois précisément, c'est pour violence sur.
C'est pour plusieurs violences.
Des matons qui ont porté plainte.
À Fleury-Mérogis pour des soi-disant violences.
C'est bon.
Oui.
Okay, pardon, je vous coupe.
Faut qu'on finisse.
Plus localement, le mercredi 24 juin à 18h30, il y a un débat anticarcéral avec Alain Cangina, président de l'association Renette PJ 2R, donc ancien prisonnier, et Lionel Perrin, un ancien membre de l'OIP, avec un petit repas organisé à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement. À Lyon, et c'est dans le cadre des 10 ans giveaway des 10 bougies du site Rébellion, du site d'information locale Rébellion. Voilà, donc
rébellion.info.
Parfait. Et ben, et nous on se retrouve, on va laisser la place à nos Joy et on se retrouve et ben le jeudi 2 juillet.
Ouais. Et voilà. Puis courage, détermination, blabla.
Force,
ceux qui sont à l'intérieur et salut à tous. Ciao.
Ciao.
Bye bye.